Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec la suite à 18h40 du débat des grandes voix du lundi, avec ce soir Charles Villeneuve, Brice Teinturier, directeur général délégué d'Ipsos, et le grand sage Olivier Duhamel, avec Charles Villeneuve évidemment. On parlait des écolos. Les écolos ont-ils un problème avec la laïcité, avec la République? Alors avant de vous entendre sur les chances d'Anne Hidalgo de rassembler cette gauche en vue de 2022, simplement j'ai retrouvé les exemples de positions un peu divergentes chez Europe Écologie Les Verts. On se souvient par exemple, le groupe Écolo de Paris avait déposé en novembre 2018 une proposition visant à faire adopter des créneaux non mixtes dans les installations sportives de la capitale. On se souvient également qu'en novembre 2019, les principaux responsables écolos ont tous signé la tribune appelant à une marche contre l'islamophobie, avec certaines associations qui aujourd'hui font débat et seront sans doute dissoutes. Mais à l'inverse, Julien Bayou a soutenu Mila, par exemple, alors que beaucoup de responsables politiques à l'époque n'ont pas dit « je suis Mila », il l'a soutenu sans aucune ambiguïté. L'attachement, avait-il dit, à la laïcité, au droit au blasphème, à la liberté d'expression et à la liberté de conscience. Donc on voit bien que c'est vrai qu'il y a une ligne de fracture au sein des écolos.
Oui, qu'il y a un clivage au sein des écologistes, mais pas seulement, au sein du Parti Socialiste aussi. Les positions de Manuel Valls, qui était clairement sur une affirmation très stricte de laïcité, étaient loin de faire l'unanimité. Donc c'est une ligne de partage qui fonctionne à l'intérieur de toutes les familles politiques de la gauche, de celle de la France Insoumise jusqu'aux socialistes, et elle est vraie également chez les écologistes.
Olivier,
et c'est une ligne de partage en plus qui est exacerbée, qui est parfois même hystérisée. Il y a la violence avec laquelle les gens s'attaquent les uns les autres. Par exemple, vous avez deux expressions phares pour chaque camp, pour dénigrer l'autre. Hein, il y a le camp qui dénigre l'autre en disant « vous êtes des islamophobes », et l'autre répond « vous êtes des islamo-gauchistes ».
Oui.
Et paf, ces deux qualificatifs sont jetés à la figure les uns des autres. Alors, ce serait quand même pas très très compliqué de dire qu'on est à la fois totalement contre l'islamisme radical et totalement contre le racisme anti-musulman. Que la gauche soit... La capacité de la gauche, aidée par des intellectuels, il faut bien le dire, à se déchirer avec une violence inouïe, au lieu de s'accorder sur des principes simples, est quand même juste stupéfiante.
Alors, Anne Hidalgo, 2022, c'est vrai que pendant les quelques secondes de pause, vous évoquiez les uns et les autres, et c'est assez juste le fait qu'elle a été victime d'un bashing assez fort pendant la campagne des municipales, et qu'aujourd'hui, elle devient un peu la madone qui peut réenchanter l'espérance de gauche, Charles Villeneuve. C'est une sacrée victoire pour elle, tout de même.
Mais sur le plan strictement conjecturel, il y a quand même deux candidats déjà potentiels. Arnaud Montebourg, Parti Socialiste, et Jean-Luc Mélenchon, France Insoumise. Et ce qu'elle vient de faire là, si vous voulez, a une double signification. D'abord par rapport à cette alliance qu'elle va cultiver, qu'elle va adoucir, qu'elle va renforcer. Elle ne va pas de toute façon jeter, si vous voulez, à la mer comme ça, tout le travail préalable qu'elle a fait avant les municipales, après les municipales et jusqu'à aujourd'hui. Et puis il y a aussi un positionnement de leadership par rapport à tous ces candidats. Elle sait très bien dans quel état est le Parti Socialiste, et parce que moi je trouve personnellement, je ne sais pas si Brice Teinturier ou Olivier sont d'accord avec ça, mais ça fait un certain temps déjà que le Parti Socialiste a abandonné, en tout cas délaissé, peut-être abandonné, c'est trop fort, mais délaissé ce qu'est sa matière première, c'est-à-dire l'électorat populaire.
Oui.
Et elle ne l'a jamais délaissé.
Oui.
Elle a cette constance pour elle.
Oui.
Elle a ce pactole pour elle. Et maintenant, elle sait très bien qu'il faut rassembler tout ça. Et cette prise de position, c'est dans cet ordre d'idées.
Alors, je prendrai ma part à la présidentielle, a dit Anne Hidalgo. C'est vrai que, pour rebondir sur ce que disait Charles Villeneuve, Brice Teinturier, elle a un socle très fort d'adhésion, notamment à Paris, mais les classes populaires sont peut-être un peu plus faibles à Paris qu'ailleurs en France. Comment est-elle perçue dans l'opinion publique, Anne Hidalgo ?
Eh bien, en France, d'abord, il y a effectivement un peu moins d'employés ou d'ouvriers qui portent un jugement favorable sur elle, mais ce n'est pas parce qu'ils porteraient un jugement défavorable, contrairement à ce qu'on dit souvent, c'est plus parce qu'ils ne la connaissent pas ou moins. C'est plus des taux de NSP, de je ne sais pas, qui sont plus élevés. Non, je crois qu'elle coche aujourd'hui beaucoup de cases en vue d'une possible candidature à la présidentielle, et elle avait initié il y a quelques semaines déjà dans Le Point une interview qui était assez déjà évocatrice, au moins qu'elle y songeait. Première case, elle est maire de Paris. Elle a été réélue et brillamment réélue. Alors, ça ne suffit pas, on se pose la question de la province, mais enfin, c'est quand même un actif important.
C'est pas un handicap.
Non, je ne pense pas que ce soit un handicap. N'oublions pas quand même qu'il y a eu quelques précédents glorieux.
La personne de Jacques Chirac. Arrêtez, il était trois quarts corrézien.
C'est la question du double enracinement.
Oui, mais le premier quart était parisien, mais il était né à Paris.
Non, je ne pense pas que ça soit, même s'il y a un antagonisme, la province contre Paris, etc. Mais dans les enquêtes, en tous les cas, on ne voit pas un abîme aujourd'hui où il y aurait la province anti-Hidalgo et les Parisiens pro-Hidalgo. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un sujet potentiellement, mais être maire de Paris, ça permet d'avoir de l'expérience, de la compétence et d'affirmer un certain nombre de choses. Elle est de gauche et on en a parlé authentiquement de gauche.
Oui.
Elle a pris très tôt, on le lui reprochait, le virage écologiste. Aujourd'hui, c'est quand même plutôt un atout. Elle n'a pas été, durant le quinquennat de François Hollande, et c'est une grande chance pour un candidat de gauche aujourd'hui, associé à ce quinquennat. Et puis, enfin, c'est une femme. Voilà. Et ça peut peut-être aussi, le moment venu, jouer en sa faveur. Donc ça fait beaucoup de cases.
Le problème, c'est est-ce que les écolos vont lui laisser l'espace? Parce qu'ils comptent bien présenter un candidat, eux.
Non, mais les écolos savent très bien, notamment dans le cadre d'une élection présidentielle, qu'il faut aller derrière un champion, si vous voulez, qui a des chances de décrocher le titre. Et elle en fait potentiellement partie. Les écologistes, jusqu'à présent, dans le cadre de l'élection présidentielle, n'ont jamais fait des scores extravagants. Oui. Peut-être que c'est du passé.
Sauf que si elle a réussi à être élue à Paris, c'est aussi grâce au vote écolo.
Oui, bien
les
sûr,
mais c'est envie d'avancer.
Mais bien sûr, mais elle
candidat.
Avait travaillé ça sur le fond. Pistes cyclables, ouverture des berges, surface roulante rétrécie, alternance de la circulation. Elle avait fait un travail de fond pendant des années là-dessus, elle avait préparé. Oui. Comment voulez-vous que, même dans les arrondissements les plus inaccessibles comme le 16e ou le 8e, elle a eu une participation à un vote, les NSP se sont prononcés, et ne se prononcent pas. Et ça a été quand même un atout pour son élection. Et elle a fait quand même un écart avec sa principale concurrente, ses principales concurrentes, très nette.
Oui, oui.
Il n'y a pas de discussion.
NSP pour les néophytes, ça veut dire ne se prononce pas. Pour les sondeurs. Olivier Duhamel.
Non, je pense que Charles Villeneuve a une vision très, très, très optimiste, pour ne pas dire idyllique, des écolos. Et d'ailleurs, des partis politiques en général.
Non, vous voulez dire de Anne Hidalgo.
Non,
je ne suis pas idyllique.
Vous l'avez sur un point, quand vous avez dit, laisser entendre qu'il pourrait se regrouper derrière elle à la présidentielle.
Oui.
C'est ça où je pense que vous êtes. Loin de moi de faire de vous un écologiste, je sais bien que ça vous ferait sauter sur votre chaise.
Non, pas du tout.
Cet aspect-là des choses.
Même le général de Villiers est écolo, d'après ce que j'ai vu.
Ouais, mais tout le monde est écolo aujourd'hui. Non, mais vous avez une vision très idyllique. Je pense que
les écolos ont gagné leur combat.
Idéalement, pour parvenir au pouvoir et participer au pouvoir, ils devraient y faire en 2022. Ce qu'ils ont fait en 2017. Et en 2017, à l'inverse, ils auraient dû avoir une candidature propre. Mais ils ont fait les choses à l'envers. Ils n'ont pas eu de candidat en 2017. Ils ont rallié un candidat qui a fait combien ? 6%. Et depuis, ils ont progressé à chaque élection. Et maintenant, vous allez voir, il y aura un candidat écolo, au moins un, à la présidentielle.
Oui. Et dans quelques secondes, les amis, on va parler de quelqu'un qui a une cote de popularité que beaucoup aimeraient avoir, peut-être Anne Hidalgo aimerait l'avoir, 74% d'opinion favorable. C'est Angela Merkel. À tout de suite.